Avec ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir les garçons, bonsoir Alain.
Bonsoir et tous mes vœux.
Tous mes vœux Alain, tous mes vœux les garçons.
Bonsoir, merci, bonne année, merci. Bonsoir Alain Duhamel. Avant de vous écouter débattre, on va écouter le patron du MEDEF, Monsieur Patrick Martin, qui était l'invité d'RMC et de BFM TV ce matin. Parce que si François Bayrou négocie en ce moment sa garantie de survie au budget, Patrick Martin voit tout ce qui se dit sur les retraites d'un œil un peu inquiet. Le patron des patrons l'écoute.
Nous avons cette crainte qu'un accord politique dont on comprend la nécessité d'une certaine manière se fasse sur le dos, non pas des entreprises uniquement, mais de l'économie d'une manière générale, ça veut dire y compris des salariés, et y compris de l'endettement de la France. Donc tout ça, on ne peut pas s'en accommoder, en tout cas ça nous inquiète beaucoup.
Alors le MEDEF est inquiet, François Bayrou négocie, doit-il céder pour garantir sa non-censure, doit-il céder sur la réforme des retraites ?
Je ne crois pas qu'il doive céder, mais je crois qu'il doit négocier. Et qu'il doit négocier, je dirais, réellement. Jusqu'à présent, dans les gouvernements précédents, on a consulté. Là, il faut négocier. Il faut négocier pourquoi ? Bah parce qu'il faut un budget. Et tout le monde reconnaîtra que la France a besoin d'un budget. Bon. Il faut négocier en même temps, en ayant en tête que le résultat de la négociation doit être un geste suffisamment significatif pour entraîner, en tout cas les socialistes, ou pour obtenir leur neutralité, et si possible, en plus, les écologistes et les communistes, mais que ça ne doit pas se faire en accroissant encore les déficits. Donc il faut que ce soit suffisamment spectaculaire pour que à gauche, on puisse dire... Bah, on a obtenu quelque chose, et en même temps, suffisamment raisonnable pour que ça n'augmente pas des déficits qui sont déjà très difficilement gérables. Alors, bon, pour y arriver, il faut de la bonne volonté des deux côtés, il faut bien s'y prendre, il faut quand même qu'il y ait la pression de se dire, et si on n'a pas de budget au mois de février, qu'est-ce qui se passe ? Il faut avoir un peu peur quand même d'une crise de régime. Et puis, il faut avoir en tête une chose simple, mais à laquelle on ne pense pas tellement, c'est qu'en France, les seuls vrais compromis au niveau national ne sont acceptés et ne réussissent que quand on est en pleine crise.
La réforme des retraites, elle est partie. Elle est partie depuis 2023. C'est comme un énorme tanker. Quand on met en arrière tout, il faut 10 km pour l'arrêter. Et là, il y a d'abord, moi je pense que François Bayrou ne pourra pas faire autrement que de geler la réforme des retraites. Ceci étant, c'est pas pour ça qu'elle va s'arrêter. Parce que d'abord, il faut une loi, pour geler, contrairement à ce qu'ont dit certains, c'est pas une disposition réglementaire. On a déjà engrangé quelque chose, puisque ça se gère semestre par semestre, donc ça pourra être au mieux le 1er juillet 2020. 25, on est déjà à 62 ans et 9 mois. On a déjà engrangé, et ça, même avec un gel, on ne peut pas l'arrêter, pratiquement la moitié de la réforme des retraites. Court aussi la réforme de Marisol Touraine. On est déjà à 42 ans et 6 mois. Donc il y a un énorme tanker.
C'est-à-dire sur les trimestres.
Sur les annuités. Voilà. Donc il y a déjà un énorme tanker qui est en route et qui est en la réforme des retraites. Et la Caisse nationale d'assurance vieillesse nous dit, nous on a besoin de 6 mois pour faire rentrer le système, pour faire rentrer les nouvelles données dans le système. On voit donc que on est déjà dans la réforme des retraites, elle est déjà bien amorcée. Si ce gel sert aussi à expliquer
que... Moi, j'ai pas dit gel.
Ou suspension.
Non, j'ai pas dit suspension.
C'est sur la table, en tout cas.
Non, mais c'est le scénario.
J'essaie d'expliquer mon scénario.
Je vous donne la
parole tout de suite, Alain. Ensuite, effectivement... il faut que ça va se dérouler sur un an, cette affaire-là. Si on profite de cela pour dire que les fondamentaux qui, en 2022-2023, avaient abouti à cette petite réforme se sont encore détériorés. Sur la productivité, on l'estime à 1%, elle est à 0,4. Sur la natalité qui est en train de s'effondrer et sur le taux de chômage qui est en train de flamber, je pense que ce travail de pédagogie qui n'a pas été fait... peut se faire à ce moment-là. Je rêve peut-être, mais Voilà comment je vois les choses.
Pourquoi vous dites pas de suspension? C'est pourtant ce que veulent obtenir les socialistes. C'est très clair. C'est très clair. La suspension. Ils veulent, et après, on négocie la réforme des retraites, une nouvelle réforme.
Ils veulent obtenir un résultat qui soit vendable aux Français, comme on a réellement arraché quelque chose. Sur les modalités, il faudra faire preuve d'imagination. Je vous dis pas que c'est facile à faire. Je répète, il faut qu'il y ait un principe de départ. Un, on a besoin d'un budget, et on a besoin d'un budget maintenant. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et deux, il faut que la négociation n'accroisse pas les déséquilibres financiers. Bon, à partir de ça...
Visiblement, c'est pas la préoccupation de la gauche.
C'est
de quelle gauche parlez-vous ?
Oui, c'est ça. Ça n'est sûrement pas la préoccupation des insoumis. Ça l'est peut-être pas beaucoup des écologistes. Ça l'est un petit peu quand même des communistes. Et ça l'est sans doute davantage des socialistes. Mais ils savent bien que s'il n'y a pas de budget, il y a non seulement une crise politique, mais qu'il y a une crise de régime. Et ils savent bien.
On avait dit ça avec Barnier. Finalement, les Français ne vivent pas en ce moment. Ils n'ont pas l'impression d'être en crise.
Ils ont l'impression d'être en grande difficulté économique et sociale.
Oui, mais pas forcément lié avec la chute de Barnier.
Ils sont pas idiots, les Français. Et en particulier, ils savent très bien que eux ont, exactement comme les gouvernants, besoin qu'il y ait un budget. Autrement, ça sera à leur détriment, évidemment.
C'est le budget 2024 qui s'applique, là.
Justement, oui, mais c'est pas un bon budget.
C'est pas en janvier, c'est pas le 9 janvier qu'on le voit.
Continuons le scénario.
Oui.
Admettons qu'il arrive à ce pacte de non-censure avec ces fameuses avancées remarquables en suspendant la réforme des retraites. Mais est-ce que ça ne provoquera pas une crise au sein de cette fois-ci de son gouvernement avec des gens qui ont fait passer cette réforme des retraites? Est-ce qu'Emmanuel Macron l'acceptera? Est-ce que les ministres de droite l'accepteront
aussi? Alors, il y a des choses
de pactiser avec le PS.
J'ai oublié de dire dans cette réforme, si elle est gelée, elle gèle aussi les mesures sucrées de la réforme.
Les avancées sociales.
Les avancées sociales qui avaient...
La gauche le dit pas,
considérablement de moitié le coût de la qui avait augmenté le coût de la réforme, diminué de moitié les économies attendues de cette réforme des retraites. En tout cas, sur le plan politique, il va y avoir deux grands blessés qui vont surgir si ce gel était annoncé par François Bayrou mardi prochain. C'est en un, le président de la République, évidemment, et en deux, Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'effectivement, la gauche social-démocrate, la gauche raisonnable de gouvernement pourra dire vous gueulez dans la rue,
vous
n'obtenez
rien.
Nous, on a négocié et on obtient quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un accord de principe, un accord, entre François Bayrou, parce qu'il y a intérêt pour maintenir son gouvernement, et de la gauche de gouvernement pour se dire
il y a une formule dont je reconnais qu'elle est difficile à mettre sur pied et qu'elle implique une volonté d'aboutir à un compromis de part et d'autre, donc je vous dis pas que c'est facile, mais qui est non pas de détruire la réforme mais de voir comment on peut l'améliorer. C'est possible, on peut discuter. Vous savez,
oui, mais il faut une annonce forte. Et l'annonce forte, c'est la suspension. Parce que si François Bayrou dit « on va l'améliorer », je pense que les socialistes... Et d'ailleurs, Marine Tondelier l'a dit hier, ça ne sera pas suffisant.
Oui, non, mais ce n'est pas la plus allante en direction du compromis. Tant s'en faut. Et c'est plutôt
une des plus
réticentes.
Mais est-ce que ça revient à ma question initiale, est-ce que ça ne provoquera pas une crise au sein même de son gouvernement ?
Alors, on ne peut rien exclure, puisqu'on est dans une situation...
C'est ça ou la censure.
On n'a jamais connu.
Ils n'ont pas trop le choix.
S'il y a crise au sein du gouvernement, de toute façon, c'est l'échec général. Et pour le coup, c'est la crise de régime. Au lieu que ça vienne de la censure, ça vient, si j'ose dire, de l'autocensure de ministre, c'est la crise dans la crise.
D'accord.
Si ça vient, on pourrait dire que, par exemple, l'aile droite de la majorité serait absolument furieuse que soit remis en cause ce pourquoi ils se sont bagarrés.
Horizon, par exemple, n'est pas d'accord avec ça.
Bien entendu. Vous avez remarqué quand même que Édouard Philippe hier
il est aux abonnés absents.
Sur la situation économique, il a été économique et politique, il a été assez réaliste.
On a perdu de vue à Gabriel Attal aussi, si vous avez des nouvelles.
Bah, écoutez, oui, ce petit Gabriel est attendu à la caisse avec
ses
parents.
Écoutez, moi, alors là, je me place d'un point de vue, si j'ose dire, corporatiste. Comme j'ai remarqué ce matin dans la presse dite nationale qu'il y avait trois papiers sur le même sujet, j'en ai conclu que sans doute pas mal de gens avaient dû le rencontrer hier ou avant-hier et que ça ne venait quand même pas par hasard.
Mais alors, du coup, la question,
oui, parce que vous n'avez pas répondu,
est-ce qu'il doit céder, François Bayrou, oui ou non?
Mais moi, ça dépend ce qu'on appelle céder.
Doit-il céder?
Il ne peut pas faire autrement que de geler, faire réfléchir. Il peut vendre ça aussi comme les acquis de la première réforme qui sont déjà...
On peut dire suspendre.
Vous suspendre, oui. Le gel est à terme.
C'est pareil.
Et il a du temps. Il aura du temps devant lui. Hein. Je reprends ma comparaison avec le tanker qui met 10 km pour s'arrêter quand on met en arrière tout. Et je dois dire qu'il va y avoir des signaux qui vont être, qui vont sans doute permettre de faire vendre cela, le fait que la réforme n'est pas arrêtée, qu'il faut en trouver une autre. Qu'est-ce que ça va coûter, par
et
exemple,
les marchés financiers
sur les marchés financiers?
Alors, est-ce que j'ai l'impression qu'on fait comme si on était dans une bulle.
Non, justement, j'allais dire mon raisonnement. Enfin, c'est tout ce que, en l'occurrence, je crois, c'est que les pressions pour aboutir à la nécessité d'un budget avec un calendrier raisonnable implique de toute façon des négociations et un compromis. Alors ce compromis, il peut être détestable, il peut être médiocre, il peut rarement, difficilement être très bon, mais il sera nécessaire. Déjà, les marchés, d'abord, vous avez vu que les taux d'intérêt français sont en train de grimper nettement plus vite. Oui, mais
ça va, avec une grande... L'annonce d'une suspension de la réforme des retraites, ça ne va pas aider.
Oui, mais l'annonce d'une crise de régime également.
Et surtout, l'absence de budget, alors là, pour le coup, ça va déclencher des formes de spéculation, inévitablement.
De toute façon, l'idée que le service de la dette sera seulement de 50 milliards d'euros, moi, à mon avis, c'est un fantasme.
Mais on est coincé. C'est pour ça qu'il faut tricher. C'est-à-dire arriver à un compromis en trompe-l'œil pour permettre pour permettre de passer le budget et ensuite de discuter pour voir ce qu'on peut faire positivement.
Alors donc, Mélenchon a raison de dire « jeu de dupe ».
Bah non.
Oui, bien sûr.
Mais ça n'est pas jeu de dupes si ça permet déjà dans deux mois de faire passer le budget.
Oui, bon, enfin, c'est de la triche.
Si on écoute Jean-Luc Mélenchon, qui est très intelligent par ailleurs, mais si on écoute Jean-Luc Mélenchon, le budget, il passe pas. Hein.
J'ai
envie de dire une grossièreté, je sais pas si c'est un jeu de dupes ou un jeu de pute, mais enfin je...
Oh, bah allez-y, c'est dit. Alain,
qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Chacun sait très bien que dans cette affaire-là, il n'y a pas de bonne solution ni pour l'un ni pour l'autre, et ensuite, à la suite d'une négociation en trompe-l'œil, ils vont essayer de vendre que ce sont eux qui sont les gagnants. Chacun essaiera de se présenter de cette façon-là.
Je dirais même plus, comme disent Dupont et Dupont, il faut les laisser dire qu'ils auront gagné.
Et la France aura gagné.
On va les laisser.
Elle aura gagné son budget, c'est tout.
Si on a un budget, on aura déjà... Non mais attendez.
Oui. Mais ça ne garantit pas l'après.
Ça n'a jamais été aussi difficile d'en avoir un. Donc. Depuis le début de la Ve République.
Donc, d'abord le budget.
Si on y arrive, ben voilà.
Donc en fait, ça veut dire d'abord le budget, puis on verra après.
Quels que soient les sacrifices. Voilà.
D'accord. Ah, merci Alain.
C'est ce que j'appelais un nécessaire jeu de dupes.
Ah bah donc, comment Mélenchon, jeu de dupes.
Merci Alain Duhamel. Merci Rosine Bachelot.